Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, bonsoir Marc-Olivier Fogiel.
Bonsoir Virginie, bonsoir à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour deux heures d'infos et à la une. Veillée d'armes pour le fameux grand débat. On attend d'une minute à l'autre le mode d'emploi de ce grand débat national. Selon les informations d'RTL, tout le monde pourra organiser des réunions et envoyer ce qu'il s'est dit en préfecture ou sur Internet. Un duo de ministres animera cette consultation, accompagné par deux personnalités indépendantes. Dans sa lettre publiée hier soir, Emmanuel Macron soumet une trentaine de questions aux Français, dont l'instauration de quotas pour les immigrés. Mais il refuse de revenir sur l'ISF notamment. Dans RTL Soir, on va vous expliquer comment vous pourrez débattre et comment vos propositions vont remonter jusqu'à l'exécutif. 18h20, justement, l'une des ministres chargée de l'animation du débat, Emmanuel Wargon, nous dira s'il sera vraiment indépendant. 18h30, Alain Duhamel. 19h15, notre débat, celui dont refait le monde. RTL Soir, première édition avec vous Isabelle Choquet, bonsoir.
Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous.
Les autres titres du journal.
Deux policiers d'élite dans le box des accusés. Ils sont jugés pour le viol d'une touriste canadienne au 36 quai des Orfèvres. À charge des SMS particulièrement sordides. Récit complet dans un instant. On l'avait retrouvée morte aux urgences de la Riboisière 12 heures après son admission. Le rapport de la PHP conclut à une série de dysfonctionnements et à un manque de moyens. Le cauchemar de Cesare Battisti, de retour en Italie après 40 années de cavale. L'ancien activiste doit purger une peine de prison à perpétuité. À suivre également la course contre la montre en Espagne. On tente de sauver un petit garçon tombé hier dans un puits de plus de 100 mètres de profondeur. Et puis Andy Murray, défait mais héroïque, l'ancien numéro 1 mondial du tennis vient sans doute de jouer son dernier match à Melbourne. La bourse de Paris, elle termine en baisse ce soir de 0,39% à 4 762 points. Les courses à Vincennes, il fallait jouer le 11, le 12, le 7, le 13 et le 8.
Et à la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité. Un jeune de 15 ans blessé à la tête à Strasbourg, des images de visages en sang sur les réseaux sociaux. Les lanceurs de balles de défense des forces de l'ordre font polémique, mais quelles sont leurs règles d'utilisation? 18h25, direction les coulisses de l'actualité, le PSG en opération séduction au Qatar. On va vous emmener en coulisses d'un séjour où le business a pris le pas sur le sportif. 18h35, c'est le grand retour de Patrick Sabatier à la télé. Pas pour une, mais pour deux émissions en prime time sur C8, inspirées de ses programmes cultes. Il vous avait manqué, à nous aussi, Patrick Sabatier, avec nous tout à l'heure, 18h30 sur RTL, sa maison. La météo, bonsoir Patricia Charbonnier.
Bonsoir.
Pour demain, un classique, soleil au sud, grisaille au nord.
Oui, un temps très calme jusqu'à mercredi même, mais avec de la grisaille, hein, toujours ces fameux nuages bas sur la moitié nord du pays. Et encore un petit peu de pluie, surtout demain matin sur le quart nord-est, et un petit peu de neige sur les Vosges, alors que dans le sud, eh bien, après dissipation de la grisaille matinale, ce sera vraiment un temps très ensoleillé, avec enfin le vent qui s'essouffle en Méditerranée, les températures entre moins 2 et 9 degrés demain matin, et 5 à 16 dans l'après-midi, 6 à Nancy, 7 à Lyon, 9 à Lille, Paris et Brest et jusqu'à 16 degrés pour le maximum à Nice-Sébastien.
Merci Patricia et à tout à l'heure.
RTL Soir.
Vous vous en souvenez, l'affaire avait fait grand bruit. C'était il y a 4 ans. Deux policiers d'élite sont jugés aujourd'hui pour viol.
Deux hommes du 36 quai des Orfèvres accusés d'avoir abusé d'une touriste canadienne dans les locaux de la prestigieuse PJ parisienne. Ils ont reconnu un flirt et un passage au 36 mais assurent qu'il n'y a eu qu'une relation consentie. Alice Moreno, vous êtes au palais de justice de Paris pour RTL. Émilie est venue tout spécialement du Canada pour faire face à nouveau à ces deux hommes.
Oui, les épaules d'Émilie sont secouées de sanglots étouffés à la lecture des faits quand le président à l'audience raconte les fellations et les pénétrations qu'elle aurait subies de force. La quadragénaire canadienne enfouit son menton dans une épaisse écharpe, soulève ses lunettes, porte un mouchoir au coin de ses yeux. 5 ans après cette soirée où elle a quitté le 36 quai des Orfèvres en larmes, Émilie se trouve tout près des deux policiers qu'elle accuse de viol à 1 mètre tout juste derrière eux. Ses anciens agents de la BRI comparaissent libres, leurs larges carrures engoncées dans des vestes sombres, les mains jointes. Ils bougent à peine, ne jettent pas un regard à la partie civile, baissent seulement les yeux à l'évocation de quelques détails, comme ce SMS que l'un d'eux a envoyé à un collègue le soir des faits en parlant d'Émilie. « Viens, c'est une partouzeuse », écrivait-il alors. Quand le juge se penche sur les déclarations des policiers, Nicolas, le plus âgé des deux, hoche la tête comme pour acquiescer, car oui, tous deux reconnaissent que ce soir d'avril 2014, dans un bureau du 36, il y a eu des caresses, des rapports sexuels. Mais il l'assure, depuis le début, Émilie était consentante.
Au palais de justice de Paris, donc, pour RTL, Alice Moreno. Le facteur est donc passé. Isabelle, Emmanuel Macron a adressé sa lettre aux Français. Et maintenant, place au fameux grand débat.
Ça commence demain. Alors, on sait déjà qu'il sera animé par un duo de ministres, Sébastien Lecornu et Emmanuel Wargon, qui sera notre invité dans quelques minutes. Et on devrait connaître ce soir les détails de cette vaste consultation censée mettre un terme à la crise des Gilets jaunes. C'est une question de minutes, Benjamin Sportouche.
Oui, le gouvernement met en ce moment même la dernière main aux modalités pratiques, un peu dans la précipitation, in extremis, à la veille du lancement officiel de ce débat national, avec un pataquès sur le comité des sages qui doit garantir l'indépendance et la transparence des débats. Ce qui est certain, c'est que Jean-Paul Bailly, ancien patron de la RATP, devrait en faire partie. Nicole Notat, ancienne numéro 1 de la CFDT, a été approchée, comme nous vous le révélions ce matin, mais elle aurait refusé. Ce qui est sûr, vous l'avez dit, c'est que deux ministres seront à la manœuvre, Sébastien Lecornu et Emmanuel Wargon à l'écologie. Concrètement aussi, les maires ont reçu aujourd'hui même un kit pour organiser des réunions, mais chaque Français pourra aussi le faire de même. Seule exigence pour que ce soit validé, il faudra en dresser un procès verbal avec pourquoi pas des images de la réunion, explique Matignon. Ce compte-rendu devra ensuite être envoyé sur le site internet dédié au grand débat qui sera lancé demain, granddebat.fr a priori, ou l'envoyer en préfecture. Et ensuite, selon nos informations, il pourrait y avoir au niveau des régions des grandes réunions de synthèse en présence de citoyens qui seront tirés au sort. Enfin, chaque parti politique devra désigner un interlocuteur du gouvernement pour là aussi renforcer l'impartialité de ce débat d'une ampleur inédite. Donc, côté agenda, fin des travaux pratiques le 15 mars et a priori, conclusion attendue d'ici le 15 avril.
Information de Benjamin Sportouche du service politique de RTL. Emmanuel Wargon donc a choisi RTL pour sa première expression publique. Elle sera avec nous à 18h20. Dans sa lettre aux Français, Emmanuel Macron a listé une trentaine de questions auxquelles il faudra répondre donc. Et il y en a deux qui concernent l'immigration finalement.
Et notamment celle-ci. Une fois nos obligations d'asile remplies, souhaitez-vous que nous puissions nous fixer des objectifs annuels définis par le Parlement? Des objectifs annuels. On pense fatalement à une politique de quotas. Bonsoir Dominique Tenza.
Bonsoir.
De quoi est-il question exactement?
Eh bien, il s'agit effectivement bien de quotas, concrètement le fait de limiter le nombre d'étrangers qui rentrent chaque année sur notre territoire aux alentours de 250 000 personnes aujourd'hui. Désormais, ce chiffre pourrait être discuté et voté chaque année par le Parlement en fonction des pays d'origine, c'est une possibilité, des besoins économiques, autre option, c'est le cas au Canada par exemple, qui fera rentrer encore cette année plus de 300 000 personnes sur son territoire, essentiellement de la main-d'œuvre. Sur tous ces points, Emmanuel Macron ouvre donc le débat, sachant que la marge de décision dans les faits reste réduite, puisque ces quotas n'ont pas vocation à concerner les demandeurs d'asile. La France reste une terre d'accueil. Et à moins de réduire à zéro le nombre d'étudiants étrangers et de durcir au maximum les conditions du regroupement familial, si quotas il devait y avoir, il concernerait une portion très réduite des entrées légales chaque année.
Alors il n'empêche, venant d'Emmanuel Macron, c'est nouveau et ça rappelle l'immigration choisie, hein, voulue en son temps par Nicolas Sarkozy.
C'est vrai, immigration choisie plus que subie, disait à l'époque Nicolas Sarkozy. Les quotas, c'est clairement une idée défendue jusqu'ici par la droite, portée durant la campagne par François Fillon et Marine Le Pen, d'où l'embarras ce matin du porte-parole des Républicains, Geoffroy Didier, qui tente une mise en garde.
Si nos idées avancent, tant mieux. Mais on a un vrai problème de décalage entre ce que prétend faire le président de la République et ce à quoi on aboutit au final.
La droite concurrencée sur son terrain et quelques dents qui grincent aussi dans les rangs de la majorité où certains chez LREM s'étonnent de voir surgir ce débat sur l'immigration qui paraît assez loin des revendications des Gilets jaunes.
Merci Dominique Tenza. On en débattra nous-mêmes dans Refait le Monde, notamment avec l'ex-plume de Nicolas Sarkozy, Camille Pascal.
Et pour lancer ce grand débat, Emmanuel Macron se rend demain à Bourtraud en Normandie. Selon un sondage Opinionway, près d'un Français sur deux compte participer, 47% exactement.
Il y a un mois, vous vous en souvenez, une femme de 55 ans était retrouvée morte aux urgences à l'hôpital Lariboisière. L'APHP vient de rendre les conclusions de son enquête interne.
Micheline avait été découverte presque 12 heures après son admission pour des maux de tête et une forte fièvre, sans qu'on puisse établir si elle avait vu ou pas un médecin. Le parquet de Paris a ouvert une enquête en recherche des causes de la mort et l'hôpital a mené ses propres investigations. Bonsoir Odile Pouget.
Bonsoir.
Le rapport pointe toute une série de dysfonctionnements.
Oui, d'abord le nom de cette femme, mal orthographiée, ce qui a pu poser problème lorsqu'on l'a appelée. Ensuite, une surveillance défaillante dans la zone d'attente. Entre 21h et minuit, personne n'est venu réévaluer le cas de Micheline, placée en priorité 3, ce qui signifie que son état était susceptible de s'aggraver au fil des heures. Enfin, pas d'investigation suffisante au moment de l'appel, resté sans réponse plus de 5 heures après son arrivée. Pas de vérification notamment des bracelets des malades en attente. Une succession de dysfonctionnements dans un contexte récurrent de surcharge. 249 passages enregistrés ce jour-là contre 230 en moyenne, avec un manque d'effectifs chroniques et des boxes d'examen insuffisants. Le professeur Dominique Pateron qui a conduit cette enquête.
Quand vous avez 10 boxes alors qu'il vous en faudrait 15 pour avancer, ça ralentit l'ensemble du flux. Avec des délais de prise en charge très longs, la présence des patients est particulièrement importante et la surveillance est difficile. Et les autres tâches qui sont dévolues au personnel qui font théoriquement cette surveillance, ils ne peuvent pas la faire dans des conditions correctes.
Et parmi les 10 recommandations formulées pour la Riboisière, certaines sont déjà appliquées, comme la présence d'un aide-soignant spécialement affecté à la surveillance des patients en salle d'attente la nuit.
Merci. Merci beaucoup Odile Pouget, spécialiste santé de RTL.
RTL Soir, il est 18h10.
On marque une pause et dans un instant, la course contre la montre en Espagne pour sauver un petit garçon. Il est tombé hier dans un puits de plus de 100 mètres de profondeur.
RTL Soir. Il est 18h11, vous écoutez RTL Soir avec Marc-Olivier Fogiel et la suite du journal d'Isabelle Choquet.
Et direction maintenant l'Espagne donc, où les autorités ont engagé une course contre la montre pour tenter de sauver un petit garçon, Isabelle.
Oui, cet enfant de 2 ans est tombé hier dans un puits de plus de 100 mètres de profondeur dans la province de Malaga. L'affaire tient toute l'Espagne en haleine, Diane Cambon.
La mission est de haut risque. Extraire le petit Julen tombé au fond d'un trou d'une largeur de 25 cm. Aucun adulte ne peut y pénétrer et tout coup de pelle malheureux pourrait provoquer un effondrement. Les sauveteurs venus de toute l'Espagne envisagent de creuser un autre trou en parallèle alors qu'un tracteur-pelle doit extraire la terre autour du périmètre. L'enfant est tombé dimanche vers 14h alors qu'il se promenait avec ses parents. Un sachet de bonbons a été retrouvé à l'intérieur du trou. Le trou, creusé, est destiné à puiser de l'eau, or il n'était pas protégé. Toute l'Espagne est tenue en haleine suivant l'avancée des recherches. Même le chef du gouvernement, Pedro Sánchez, a déclaré sur son compte Twitter qu'il partageait l'angoisse des parents.
En Espagne, pour RTL, Diane Cambon.
La cavale aura duré près de 40 ans. Cesare Battisti est en route ce soir pour une prison de la Sardaigne où il devrait être mis à l'isolement. L'ancien activiste d'extrême gauche a été condamné par contumace en 88 prisons à perpétuité pour 4 meurtres.
Le tennis, Andy Murray a sans doute joué son dernier match. C'était aujourd'hui à Melbourne. Mais alors, quel match, Isabelle, hein?
Ah oui, il y a 3 jours, le Britannique avait annoncé que l'Open d'Australie serait son dernier tournoi. Il est blessé de tous les côtés, notamment à la hanche. Le premier tour lui a été fatal. Il a été battu par l'Espagnol Bautista. Un match héroïque en 5-7, Eric Silvestro.
Oui, c'est un homme cabossé, usé, limité, qui a pénétré dans une Melbourne Arena garnie de drapeaux écossais. Mais c'est un grand champion qui en est sorti 4h30 plus tard, ovationné par 10 000 spectateurs debout. Opéré de la hanche, Andy Murray boite, grimace, peine même à marcher. Mais mené 2-7 à 0 et un break par Bautista Agut, il s'est offert un ultime frisson, un combat digne de sa carrière.
Si aujourd'hui c'était mon dernier match, eh bien c'est une belle manière de finir. C'est certainement à prendre en considération. L'ambiance était incroyable, alors ça me va si jamais c'était mon dernier match.
Sur le court, Murray a versé une larme en visionnant un clip de messages de soutien des autres joueurs du circuit. Roger Federer lui disputait son premier tour en même temps, mais jetait un coup d'œil au tableau d'affichage à chaque changement de côté.
Je connais Andy très bien, c'est un bon gars. Je veux qu'il sorte de ce sport comme lui le souhaite. Tout ce qu'on sait, que sa hanche elle est pas bonne, ça c'est pas une surprise. C'est la chose qui est la plus triste, de voir Andy après 20 mois d'absence de revenir et pas être à 100%, ça c'est dommage. Ouais.
Alors reverra-t-on Andy Murray sur un court de tennis? Deux hypothèses s'offrent à lui, une nouvelle opération sans garantie ou du repos et des adieux dans le temple de Wimbledon en juillet.
Merci Eric Silvestro du service donc des sports de RTL.
Et parmi les qualifiés du jour, Roger Federer donc, mais aussi Raphaël Nadal, Nishikori et côté français, Gaël Monfils.
À tout à l'heure Isabelle, vous revenez à 18h30.